Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Les disciples d'Emmaüs, quand ils sont revenus annoncer aux autres apôtres qui étaient restés à Jérusalem, qu'ils avaient vu Jésus, qu'ils avaient marché avec lui, qu'ils avaient mangé le pain avec lui, les disciples d'Emmaüs disaient d'ailleurs, « Notre cœur était brûlant quand il nous parlait et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. » Donc, ce feu, c'est la parole de Dieu qui agit en nous, comme un feu qui nous réchauffe et qui nous purifie. Quand Jésus nous dit qu'il a semé la division, cela ne veut pas dire qu'il voulait mettre la chicane et la discorde dans les familles, dans les groupes. Je ne suis pas venu mettre la paix dans le monde, mais plutôt la division. C'est une phrase qui est un peu difficile à comprendre, parce que Jésus n'a jamais prôné la chicane, n'a jamais prôné que les gens qui vivaient ensemble devaient se coltailler, comme on dirait. Alors Jésus nous dit que cette parole de Dieu est plutôt un signe que si je la prends au sérieux, ça va déranger les autres. Si je vis la parole de Dieu avec une certaine conviction, veux pas, les autres vont me regarder et vont dire, « Il me semble que lui, là, il nous dérange. Il nous dérange. » Un peu comme le prophète Jérémie dérangeait ses concitoyens. Alors, la parole de Dieu, c'est un feu. Et ce feu, cette parole nous avertit que lorsque nous prenons position pour le Christ, nous devons nous préparer à combattre, à lutter, à souffrir même, pour que la justice règne sur la terre. Et comme je le disais en entrée de célébration, la vie est un combat perpétuel. Nous avons tous à nous battre contre toutes sortes de choses. Il y en a qui se battent contre la maladie, il y en a qui se battent contre une mauvaise réputation, il y en a qui se battent contre des préjugés, il y a une foule de possibilités de lutter et de souffrir pour que la justice règne sur la terre. La vie est un combat, pas une partie de plaisir, un combat à mener dans l'amour et un combat qui rend heureux. La première lecture nous met en situation une portion de la vie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a été trimballé d'un bord puis de l'autre. Il était encore un petit pays de rien. Le pays d'Israël, c'est tout petit à comparer à ce qu'il y avait autour. Il y avait les Égyptiens qui étaient très forts. Il y avait les Babyloniens qui étaient aussi très forts au niveau militaire. Et aussi, il y avait les Perses. Et c'est ces trois choses-là, trois ennemis-là qui viennent bordasser un peu le pauvre petit peuple d'Israël. Alors, dans la lecture de ce matin, on a Jérémie. Jérémie qui vit le siège de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Les Babyloniens, Nabucodonosor, vous connaissez sûrement ce nom-là, hein? Nabucodonosor est arrivé avec ses troupes et son armée, puis il voulait prendre Jérusalem. Et le siège a été très long. La Palestine n'avait pas une grosse armée, tout ça, mais il y avait une belle ville sur un promontoire très, très abrupt, de telle sorte qu'avant de monter jusqu'en haut pour aller chercher les gens, c'est un siège qui durait à peu près 2 ans. Alors imaginez, pas tellement d'eau, la faim, le froid, et mon Nabucodonosor qui est là en bas de l'Équateur avec ses troupes. Et après près de deux ans, il a conquis Jérusalem, il a amené la population à Babylone, et là le peuple de Dieu a souffert beaucoup. Et cette souffrance, bien, à un moment donné, elle a été atténuée parce que après une cinquantaine d'années d'exil, c'est un autre qui prend la pôle, comme on dit, c'est un nommé Cyrus le Perse. Lui, il arrive, puis il est beaucoup plus condescendant, il est beaucoup plus respectueux des religions des autres peuples. Alors, il dit aux gens de Jérusalem, « Retournez dans votre pays. » Il les libère d'une façon vraiment gracieuse. Ça a été une bénédiction, parce que Cyrus le Perse, c'était pas un batailleur comme Nabucodonosor. Alors, il a dit, allez-vous-en chez vous, puis repartissez votre ville, parce qu'elle avait été détruite pas mal. Puis même, le roi perse, Cyrus, a même participé à la reconstitution de la ville de Jérusalem. Alors, tout ça nous montre comment un peuple, des fois, a à se battre contre d'autres ennemis, puis comment, des fois, ça amène de la souffrance, ça amène... Et le prophète Jérémie, il est au milieu de tout ça. Puis Jérémie n'arrête pas de dire aux gens, c'est parce que vous avez péché que vous allez être punis. Vous avez été infidèle à Yahvé, bien, vous voyez, là, vous souffrez. Alors, les gens n'aiment pas ça, se faire dire ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils soudoient des soldats de l'armée, là, tout ça, puis là, ils arrêtent mon Jérémie, le mettent en prison, le font passer dans une citerne boueuse, et mon pauvre Jérémie, il se lamente. Vous savez qu'on dit ça communément, les lamentations de Jérémie. Il se lamente. Il n'aime pas ça. Mais il continue à dire au peuple, « Convertissez-vous, autrement vous allez avoir pire que ça encore. » Puis là, il tape sous le clou, hein, tant qu'il peut. Puis Jérémie, bien nécessairement, il est une source de division entre les gens. Et des fois, il se fait pas placer lui aussi. Alors, la vie, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une sorte de perpétuel combat. On est tous appelés un jour à subir des choses comme ça, nous autres aussi, dans notre vie de tous les jours, de tous les jours. C'est là qu'il faut s'accrocher à quelque chose. Et c'est peut-être ça que Jésus nous dit. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Je voudrais bien qu'il soit allumé comme il faut, puis qu'il brûle comme il faut, pour brûler toutes les bêtises que les hommes ont pu faire. Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit, je veux recevoir un baptême. Et ce baptême-là, bien, c'est le baptême de feu, parce qu'il a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous libérer. Il nous a proposé un idéal. C'est pas facile. C'est une lutte, un combat. Puis, il faut essayer de vivre ça le mieux possible à travers notre vie de tous les jours. Alors, demandons-nous ce matin, moi, est-ce que le message du Christ, est-ce que j'essaie de le suivre le mieux possible? Est-ce que j'essaie de me confronter avec lui, puis de me dire, ben là, écoute, là, je ne suis pas dans le bon sens. Je suis en train de tergiverser, comme on dit, hein, quelqu'un qui ne prend pas position. Non, il faut prendre position. Et il ne faut pas surtout devenir un signe de division. Il y en a qui sont spécialistes là-dedans. Diviser. Il faut aimer. Des fois, on aura toutes les raisons de semer la discorde. Mais il faut pardonner. Il faut essayer de voir que, bon, OK, on ne s'en va pas dans telle direction parce que la chicane va pogner. Alors, c'est pour ça que la fin de l'Évangile est dure, hein? Ils se diviseront le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il n'a pas oublié personne. Il les a toutes mis dans le même sac. Il dit, il va y avoir de la division des fois. Mais faites-vous-en pas avec ça. Ça va venir questionner votre foi, votre espérance, votre charité. Mais il faut que ce soit le même. C'est un feu. C'est un feu qui vient nous purifier. Alors, par le fait même, ça fait beaucoup des places. Ça fait mal. Alors, demandons au Seigneur ce matin de nous aider à mieux comprendre ses paroles, son message. Et que ce feu qu'il est venu allumer bien, puisse nous purifier du cœur, l'art, tout ce qui est en nous. Et c'est une façon peut-être de dire ouais, à Dieu, ben moi je crois en toi, puis je veux vivre avec toi une certaine paix, une certaine bonne entente, et aide-moi à être fidèle à ta parole.